en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Lucrèce Lachenardière.
Marivaux, un philosophe et l'amour, un cycle de quatre émissions proposées par Lucrèce Lachenardière pour Canal Académie. Cette deuxième émission est consacrée à la lecture. Nous voulons vous faire entendre la langue de Marivaux, romancier, moins connu que le Marivaux dramaturge. Nous lirons des extraits de La vie de Marianne et du Paysan parvenu, les deux grands romans marivaudiens que René Desmaurys, professeur émérite de littérature, analyse dans la première émission de ce cycle. La vie de Marianne et Le paysan parvenu sont tous les deux des romans écrits à la première personne. Pour La vie de Marianne, c'est une femme d'une cinquantaine d'années qui en est la narratrice. Dans Le paysan parvenu, c'est un homme qui, sur la fin de son âge, décide d'écrire ses mémoires. Patrick Hamel, mon complice, sera la voix de Jacob, dit Monsieur de la Vallée, narrateur du paysan parvenu. Bonjour Patrick.
Bonjour Lucrèce.
La publication de La vie de Marianne s'est faite par partie durant plusieurs années de 1731 à 1739. Peut-être n'était-il pas facile pour Marivaux d'écrire à la première personne féminine, d'entrer dans ce personnage de Marianne, car l'auteur multiplie les préambules. Il y a en premier lieu un avertissement de l'éditeur supposé. Sous le masque de cet éditeur, Marivaux prévient les attaques qu'il sait que la critique ne manquera pas d'opposer à son roman. La vie de Marianne ou les aventures de Madame la Comtesse de... Comme on pourrait soupçonner cette histoire-ci d'avoir été faite exprès pour amuser le public... Je crois devoir avertir que je la tiens moi-même d'un ami qui l'a réellement trouvée, comme il le dit ci-après, et que je n'y ai point d'autre part que d'en avoir retouché quelques endroits trop confus et trop négligés. Ce qui est de vrai, c'est que si c'était une histoire simplement imaginée, il y a toute apparence qu'elle n'aurait pas la forme qu'elle a. Marianne n'y ferait ni de si longues ni de si fréquentes réflexions. Il y aurait plus de fête et moins de morale. En un mot, on se serait conformé au goût général d'à présent qui, dans un livre de ce genre, n'est pas favorable aux choses un peu réfléchies et raisonnées. On ne veut dans des aventures que les aventures mêmes. Et Marianne, en écrivant les siennes, n'a point eu égard à cela. Elle ne s'est refusée aucune des réflexions qui lui sont venues sur les accidents de sa vie. Ces réflexions sont quelquefois courtes, quelquefois longues, suivant le goût qu'elle y a pris. Elle écrivait à une amie qui, apparemment, aimait à penser. Et d'ailleurs, Marianne était retirée du monde, situation qui rend l'esprit sérieux et philosophe. Enfin, voilà son ouvrage tel qu'il est, à quelques corrections de mots près. On en donne la première partie au public pour voir ce qu'on en dira. Si elle plaît, le reste paraîtra successivement, il est tout prêt. Après cet avertissement, Marianne prend la parole. Mais c'est pour se plaindre, autre précaution malicieuse de la part de Marivaux, de n'avoir pas de style, de n'être pas auteur. On reconnaît la Marivaux qui est toujours prêt à jouer avec les conventions. Il instaure ainsi d'emblée une complicité plaisante avec ses lecteurs. Écoutons Marianne. Quand je vous ai fait le récit de quelques accidents de ma vie, je ne m'attendais pas, ma chère amie, que vous me prieriez de vous la donner tout entière et d'en faire un livre à imprimer. Il est vrai que l'histoire en est particulière, mais je la gâterai si je l'écris, car où voulez-vous que je prenne un style ? Il est vrai que dans le monde, on m'a trouvé de l'esprit, mais, ma chère, je crois que cet esprit-là n'est bon qu'à être dit et qu'il ne vaudra rien à être lu. Nous autres, jolies femmes, car j'ai été de ce nombre, personne n'a plus d'esprit que nous quand nous en avons un peu. Les hommes ne savent plus alors la valeur de ce que nous disons. En nous écoutant parler, ils nous regardent, et ce que nous disons profite de ce qu'ils voient. J'ai vu une jolie femme dont la conversation passait pour un enchantement. Personne au monde ne s'exprimait comme elle. C'était la vivacité, c'était la finesse même qui parlait. Les connaisseurs n'y pouvaient tenir de plaisir. La petite Vérole lui vint. Elle en resta extrêmement marquée. Quand la pauvre femme reparut, ce n'était plus qu'une babillarde incommode. Voyez combien auparavant elle avait emprunté d'esprit à son visage. Il se pourrait bien faire que le mien m'en eût prêté aussi dans le temps qu'on m'en trouvait beaucoup. Je me souviens de mes yeux de ce temps-là, et je crois qu'ils avaient plus d'esprit que moi. Combien de fois me suis-je surprise à dire des choses qui auraient eu bien de la peine à passer toute seule. Sans le jeu d'une physionomie friponne qui les accompagnait, on ne m'aurait pas applaudi comme on faisait, et si une petite Vérole était venue réduire cela à ce que cela valait, franchement, je pense que j'y aurais perdu beaucoup. Au reste, je parlais tout à l'heure de style. Je ne sais pas seulement ce que c'est. Comment fait-on pour en avoir un ? Celui que je vois dans les livres, est-ce le bon ? Pourquoi donc ? Est-ce qu'il me déplaît tant le plus souvent ? Celui de mes lettres vous paraît-il passable ? J'écrirai ceci de même. N'oubliez pas que vous m'avez promis de ne jamais dire qui je suis. Je ne veux être connu que de vous. Maintenant, lisons la narration que fait chacun des héros, Jacob, du paysan parvenu, et Marianne, de la vie de Marianne, de leurs origines. Nous allons apprécier comment Jacob s'ancre d'emblée dans la réalité, alors que Marianne, elle, s'invente une origine romanesque.
Je suis né dans un village de la Champagne, et soit dit en passant, c'est au vin de mon pays que je dois le commencement de ma fortune. Mon père était le fermier de son seigneur, homme extrêmement riche, je parle de ce seigneur, et à qui il ne manquait que d'être noble, pour être gentilhomme. Il avait gagné son bien dans les affaires, s'était allié à d'illustres maisons par le mariage de deux de ses fils, dont l'un avait pris le parti de la robe et l'autre de l'épée. Le père et les fils vivaient magnifiquement. Ils avaient pris des noms de terre, et du véritable, je crois qu'ils ne s'en souvenaient plus eux-mêmes. Leur origine était comme ensevelie sous d'immenses richesses. On la connaissait bien, mais on n'en parlait plus. La noblesse de leur alliance avait achevé d'étourdir l'imagination des autres sur leur compte, de sorte qu'ils étaient confondus avec tout ce qu'il y avait de meilleur à la cour et à la ville. L'orgueil des hommes, dans le fond, et d'assez bonne composition sur certains préjugés. Il semble que lui-même, il en sente le frivole. C'était là leur situation quand je vins au monde. La terre seigneuriale, dont mon père était le fermier, et qu'ils avaient acquise, n'était considérable que par le vin qu'elle produisait en assez grande quantité. Ce vin était le plus exquis du pays. Et c'était mon frère aîné qui le conduisait à Paris chez notre maître, car nous étions trois enfants, deux garçons et une fille, et j'étais le cadet de tous. Mon aîné, dans un de ses voyages à Paris, s'amouracha de la veuve d'un aubergiste, qui était à son aise, dont le cœur ne lui fut pas cruel. J'ai dit que c'était mon frère aîné qui conduisait chez nos maîtres le vin de la terre dont mon père avait soin. Or, son mariage le fixant à Paris, je lui succédais dans son emploi de conducteur de vin. J'avais alors 18 à 19 ans. On disait que j'étais beau garçon, beau comme peut l'être un paysan, dont le visage est à la merci du hâle de l'air et du travail des champs. Mais à cela près, j'avais effectivement assez bonne mine. Ajoutez-y je ne sais quoi de franc dans ma physionomie, l'œil vif qui annonçait un peu d'esprit et qui ne mentait pas totalement. L'année d'après le mariage de mon frère, j'arrivais donc à Paris avec ma voiture et ma bonne façon rustique. Je fus ravi de me trouver dans cette grande ville. Tout ce que j'y voyais m'étonnait moins qu'il ne me divertissait. Ce qu'on appelle le grand monde me paraissait plaisant. Je fus fort bienvenu dans la maison de notre Seigneur. Les domestiques m'affectionnèrent tout d'un coup. Je disais hardiment mon sentiment sur tout ce qui s'offrait à mes yeux. Et ce sentiment avait assez souvent un bon sens villageois qui faisait qu'on aimait à m'interroger. Il n'était question que de Jacob pendant les 5 ou 6 premiers jours que je fus dans la maison. Ma maîtresse voulut me voir sur le récit que ces femmes lui firent de moi. « Bonjour, mon garçon, me dit-elle quand je l'abordai. Eh bien, comment te trouves-tu à Paris ?» Et puis, se tournant du côté de ces femmes, vraiment, ajouta-t-elle, « Voilà un paysan de bonne mine !»« Bon, madame, lui répondis-je, je suis le plus mal fait de notre village. »« Va, va, me dit-elle, tu ne me parais ni sot ni mal bâti, et je te conseille de rester à Paris. Tu y deviendras quelque chose. »
Il y a 15 ans que je ne savais pas encore si le sang d'où je sortais était noble ou non, si j'étais bâtarde ou légitime. Ce début paraît annoncer un roman. Ce n'en est pourtant pas un que je raconte. Je dis la vérité comme je l'ai apprise de ceux qui m'ont élevé. Un carrosse de voiture qui allait à Bordeaux fut, dans la route, attaqué par des voleurs. Deux hommes qui étaient dedans voulurent faire résistance et blessèrent d'abord un de ces voleurs. Mais ils furent tués avec 3 autres personnes. Il en coûta aussi la vie au cocher et au postillon, et il ne restait plus dans la voiture qu'un chanoine de Sens et moi, qui paraissaient n'avoir tout au plus que 2 ou 3 ans. Le chanoine s'enfuit pendant que, tombé dans la portière, je faisais des cris épouvantables, à demi étouffé sous le corps d'une femme qui avait été blessée et qui, malgré cela, voulant se sauver, était retombée dans la portière où elle mourut sur moi et m'écrasait. Les chevaux ne faisaient aucun mouvement et je restais dans cet état un bon quart d'heure, toujours criant et sans pouvoir me débarrasser. Remarquez qu'entre les personnes qui avaient été tuées, il y avait 2 femmes, l'une belle et d'environ 20 ans et l'autre d'environ 40. La première, fort bien mise, et l'autre habillée comme le serait une femme de chambre. Si l'une des deux était ma mère, il y avait plus d'apparence que c'était la jeune et la mieux mise, parce qu'on prétend que je lui ressemblais un peu, du moins à ce que disaient ceux qui la virent morte et qui me virent aussi, et que j'étais vêtue d'une manière trop distinguée pour n'être que la fille d'une femme de chambre. J'oubliais à vous dire qu'un laquais, qui était à un des cavaliers de la voiture, s'enfuit blessé à travers les champs et alla tomber de faiblesse à l'entrée d'un village voisin, où il mourut sans dire à qui il appartenait. tout ce qu'on put tirer de lui un moment avant qu'il expirât, c'est que son maître et sa maîtresse venaient d'être tués, mais cela n'apprenait rien. Pendant que je criais sous le corps de cette femme morte qui était la plus jeune, 5 ou 6 officiers qui couraient la poste passèrent et, voyant quelques personnes étendues mortes auprès du carrosse qui ne bougeait, entendant un enfant qui criait dedans, s'arrêtèrent à ce terrible spectacle où, par la curiosité qu'on a souvent pour des choses qui ont une certaine horreur, ou pour voir ce que c'était que cet enfant qui criait et pour lui donner du secours. Ils regardent dans le carrosse, y voient encore un homme tué et cette femme morte tombée dans la portière où ils jugeaient bien par mes cris que j'étais aussi. Nouvelle horreur, qui les frappe, un côté du visage de cette dame morte était sur le mien et elle m'avait baigné de son sang. Ils repoussèrent cette dame et toutes sanglantes me retirèrent de dessous elle. Après cela, il s'agissait de savoir ce que l'on ferait de moi et où l'on me mettrait. Il voit de loin un petit village où il conclut qu'il faut me porter et me donne à un domestique qui me tenait enveloppé dans un manteau. Leur dessein était de me remettre entre les mains du curé de ce village afin qu'il me cherchât quelqu'un qui voulût bien prendre soin de moi. Mais ce curé, chez qui tous les habitants les conduisirent, était allé voir un de ses confrères. Il n'y avait chez lui que sa sœur, fille très pieuse, à qui je fis tant de pitié qu'elle voulut bien me garder en attendant l'aveu de son frère. Il y eut même un procès-verbal de fait sur tout ce que je vous ai dit et qui fut écrit par une espèce de procureur fiscal du lieu. Chacun de mes conducteurs, ensuite, donna généreusement pour moi quelque argent qu'on mit dans une bourse dont on chargea la sœur du curé. Après quoi, tout le monde s'en alla. C'est de la sœur de ce curé de qui je tiens tout ce que je viens de vous raconter. Je suis sûre que vous en frémissez. On ne peut, en entrant dans la vie, éprouver d'infortunes plus grandes et plus bizarres. Heureusement, je n'y étais pas quand elle m'arriva, car ce n'est pas y être que de l'éprouver à l'âge de 2 ans. Par tout cela, ma naissance devint impénétrable et je n'appartins plus qu'à la charité de tout le monde. L'excès de mon malheur m'attira d'assez grands secours chez le curé où j'étais et qui consentit, aussi bien que sa sœur, à me garder. Marivaux place son héros et son héroïne face à leur destin. Ce destin s'incarne pour Jacob, à peine âgé de 20 ans, dans le personnage de Mademoiselle Haber, une dévote quinquagénaire. Marianne, elle, qui n'a que 18 ans, rencontre un dévot sexagénaire au moins. Ah, cruel Marivaux, il met bas les masques de tous ses personnages, il n'en épargne aucun les torturant à loisir. Par exemple, que devient la dévotion quand, âgé de 50 ou 60 ans, Dieu met sur votre chemin un beau et fringant Jacob ou une jeune et fraîche Marianne ? Ou bien, que faire lorsqu'on est jeune, pauvre et mal vêtu pour résister aux avances d'un vieillard fortuné qui vous offre du beau linge ? Écoutons Jacob, écoutons Marianne.
Je passais le pont neuf entre 7 et 8 heures du matin marchant fort vite à cause qu'il faisait froid. Quand je fus près du cheval de bronze, je vis une femme enveloppée dans une écharpe de gros taffetas uni qui s'appuyait contre les grilles et qui disait « Ah, je me meurs !» À ces mots que j'entendis, je m'approchai d'elle pour savoir si elle n'avait pas besoin de secours. « Est-ce que vous vous trouvez mal, madame ?» lui dis-je. « Hélas, mon enfant, je n'en puis plus, » me répondit-elle. « Il vient de me prendre un grand étourdissement et j'étais obligé de m'appuyer ici. » Je l'examinai un peu pendant qu'elle me parlait et je vis une face ronde qui avait l'air d'être succulemment nourrie et qui, à vue de pays, avait coutume d'être vermeille quand quelque indisposition ne la ternissait pas. À l'égard de l'âge de cette personne, la rondeur de ce visage, sa blancheur et son embonpoint empêchaient qu'on en eût pu bien décider. Mon sentiment à moi fut qu'il s'agissait d'une quarantaine d'années. Je me trompais. La cinquantaine était complète. Cette écharpe de gros taffetas sans façon, une cornette unie, un habit d'une couleur à l'avenant, et je ne sais quelle réforme dévote répandue sur toute cette figure, le tout soutenu d'une propreté tirée à quatre épingles, me firent juger que c'était une femme à directeur.
Il s'agit du directeur de conscience, bien sûr.
Car elles ont presque partout la même façon de se mettre. Ces sortes de femmes-là, c'est là leur uniforme, et ils ne m'avaient jamais plu. Je ne sais à qui il faut s'en prendre, si c'est à la personne ou à l'habit, mais il me semble que ces figures-là ont une austérité critique qui en veut à tout le monde. Cependant, comme cette personne-ci était fraîche et ragoûtante, et qu'elle avait une mine ronde, mine que j'ai toujours aimée, je m'inquiétais pour elle, et lui aidant à se soutenir. « Madame, lui dis-je, je ne vous laisserai point là, si vous le voulez bien, et je vous offre mon bras pour vous reconduire chez vous. Votre étourdissement peut revenir et vous aurez besoin d'aide. Où demeurez-vous ? Dans la rue de la Monnaie, mon enfant, me dit-elle, et je ne refuse point votre bras. « Puisque vous me l'offrez de si bon cœur, vous me paraissez un honnête garçon. »« Vous ne vous trompez pas, » repris-je, en nous mettant en marche. « Il n'y a que 3 ou 4 mois que je suis sorti de mon village et je n'ai pas encore eu le temps d'empirer et de devenir méchant. »« Ce serait bien dommage que vous le devinssiez jamais, » me dit-elle, en jetant sur moi un regard bénévole et dévotement languissant. « Vous ne me semblez pas fait pour tomber dans un si grand malheur. » « Vous avez raison, » repris-je. « Madame, Dieu m'a fait la grâce d'être simple et de bonne foi et d'aimer les honnêtes gens. »« Cela est écrit sur votre visage, » me dit-elle. « Mais vous êtes bien jeune. »« Quel âge avez-vous ? » ?»« Pas encore 20 ans, » repris-je. Notez que pendant cette conversation, nous cheminions d'une lenteur étonnante et que je la soulevais presque de terre pour lui épargner la peine de se traîner. « Mon Dieu, mon fils !» « Que je vous fatigue, » me disait-elle. « Non, madame, » lui répondis-je, « ne vous gênez point, je suis ravi de vous rendre ce petit service. »« Je vois bien, » reprenait-elle, « mais dites-moi, mon cher enfant, qu'êtes-vous venu faire à Paris ? À quoi vous occupez-vous ? » À cette question, je m'imaginais heureusement que cette rencontre pouvait tourner à bien. Quand elle m'avait dit que ce serait dommage que je devinsse méchant, ses yeux avaient accompagné ce compliment de tant de bonté, d'un si grand air de douceur, que j'en avais tiré un bon augure. Je n'envisageais pourtant rien de positif sur les suites que pouvait avoir ce coup de hasard, mais j'en espérais quelque chose, sans savoir quoi. « Écoutez-moi, » dit-elle, « je vis avec une sœur que j'aime beaucoup, qui m'aime de même. Nous vivons retirés, mais à notre aise, grâce à la bonté divine et avec une cuisinière âgée qui est une honnête fille. Avant-hier, nous nous défîmes d'un garçon qui ne nous convenait point. Nous avions remarqué qu'il n'avait point de religion, aussi était-il libertin. Et je suis sorti ce matin pour prier un ecclésiastique de nos amis de nous en envoyer un qu'il nous avait promis. Mais ce domestique a trouvé une maison qu'il ne veut pas quitter parce qu'il y est avec un de ses frères, et il ne tiendra qu'à vous de tenir sa place, pourvu que vous ayez quelqu'un qui nous réponde de vous. « Hélas, madame, sur ce pied-là, lui dis-je, je ne puis profiter de votre bonne volonté, car je n'ai personne ici qui me connaisse. Je n'ai été que dans la maison dont je vous ai parlé, où je n'ai fait ni bien ni mal. » Madame y avait pris de l'affection pour moi, mais à cette heure, elle est retirée dans un couvent, je ne sais lequel. Et cette bonne dame-là, avec un cuisinier de mon pays qui est ici, mais qui n'est pas digne de me présenter à des personnes comme vous, voilà toutes les cautions que j'ai. Si vous me donnez le temps de chercher la dame, je suis sûr que vous serez contente de son rapport. Pour maître Jacques le cuisinier, ce qu'il vous dira de moi ira par-dessus le marché. « Mon enfant, me dit-elle, j'aperçois une sincérité dans ce que vous me dites qui doit vous tenir lieu de répondant. À ces mots, nous nous trouvâmes à sa porte. « Montez, et montez avec moi, me dit-elle, je parlerai à ma sœur. »
La vie de Marianne. Monsieur de Climal m'avait parlé d'un habit qu'il voulait me donner et nous sortîmes pour l'acheter à mon goût. Je crois que je l'aurais refusé si j'avais été bien convaincue qu'il avait de l'amour pour moi, car j'aurais eu un dégoût, ce me semble, invincible à profiter de sa faiblesse, surtout ne la partageant pas. Car, quand on la partage, on a juste cela, on s'imagine qu'il y a beaucoup de délicatesse à n'être point délicat là-dessus. Mais je doutais encore de ce qu'il avait dans l'âme, et supposer qu'il n'eût que de l'amitié, c'était donc une amitié extrême qui méritait assurément le sacrifice de toute ma fierté. Ainsi, j'acceptai l'offre de l'habit à tout hasard. L'habit fut acheté. Je l'avais choisi. Il était noble et modeste, et tel qu'il aurait pu convenir à une fille de condition qui n'aurait pas eu de bien. Après cela, Monsieur de Climal parla de linge. Et effectivement, j'en avais besoin. Encore autre achat que nous allâmes faire. Madame Dutour aurait pu lui fournir ce linge, mais il avait ses raisons pour n'en point prendre chez elle. C'est qu'il le voulait trop beau. Madame Dutour aurait trouvé la charité outrée, et quoique ce fût une bonne femme, qui ne s'en serait pas souciée et qui aurait cru que ce n'était pas là son affaire, il était mieux de ne pas profiter de la commodité de son caractère et d'aller ailleurs. Oh, pour le coup, ce fut ce beau linge qu'il voulut que je prisse, qui me mit au fait de ses sentiments. Je m'étonnais même que l'habit, qui était très propre, m'eût encore laissé quelques doutes, car la charité n'est pas galante dans ses présents. L'amitié même, si secourable, donne du bon et ne songe point au magnifique. Les vertus des hommes ne remplissent que bien précisément leurs devoirs. Elles seraient plus volontiers mesquines que prodigues dans ce qu'elles font de bien. Il n'y a que les vices qui n'ont point de ménage. Je lui dis tout bas que je ne voulais point de linge si distingué. Je lui parlais sur ce ton-là sérieusement. Il se moqua de moi et me dit « Vous êtes un enfant, taisez-vous, allez vous regarder dans le miroir et voyez si ce linge est trop beau pour votre visage. » Et puis, sans vouloir m'écouter, il alla son train. Je vous avoue que je me trouvais bien embarrassée car je voyais qu'il était sûr qu'il m'aimait, qu'il ne me donnait qu'à cause de cela, qu'il espérait me gagner par là et qu'en prenant ce qu'il me donnait, moi je rendais ses espérances assez bien fondées. Je consultai donc en moi-même ce que j'avais à faire. Et à présent que j'y pense, je crois que je ne consultais que pour perdre du temps. J'assemblais je ne sais combien de réflexions dans mon esprit. Je me taillais de la besogne afin que, dans la confusion de mes pensées, j'eusse plus de peine à prendre mon parti et que mon indétermination en fût plus excusable. Par là, je reculais une rupture avec Monsieur de Climal, et je gardais ce qu'il me donnait. Je n'avais plus de retraite, et M. de Climal m'en donnait une. Je manquais de hardes, et il m'en achetait, et c'était de belles hardes que j'avais déjà essayées dans mon imagination, et j'avais trouvé qu'elles m'allaient à merveille. Mais je n'avais garde de m'arrêter à cet article qui se mêlait dans mes considérations, car j'aurais rougi du plaisir qu'il me faisait, et j'étais bien aise, apparemment, que ce plaisir fît son effet sans qu'il y eût de ma faute. Souplesse admirable pour être innocent d'une sottise qu'on a envie de faire. Après cela, me dis-je, Monsieur de Climal ne m'a point encore parlé de son amour, peut-être même n'osera-t-il m'en parler de longtemps, et ce n'est point à moi de deviner le motif de ses soins. On m'a mené à lui comme à un homme charitable et pieux, il me fait du bien, tant pis pour lui si ce n'est point dans de bonnes vues. je ne suis point obligée de lire dans sa conscience, et je ne serai complice de rien tant qu'il ne s'expliquera pas. Ainsi, j'attendrai qu'il me parle sans équivoque. » Ce petit cas de conscience ainsi décidé, mes scrupules se dissipèrent et le linge et l'habit me parurent de bonne prise. Je feignis donc de ne rien comprendre au petit discours que me tenait M. de Climal pendant que nous retournions chez Mme Dutour. « J'ai peur de vous aimer trop, Marianne, me disait-il. Et si cela était, que feriez-vous ? Je ne pourrais en être que plus reconnaissante s'il était possible, lui répondis-je. Cependant, Marianne, je me défie de votre cœur quand il connaîtra toute la tendresse du mien, ajouta-t-il, car vous ne la savez pas. Comment, lui dis-je, vous croyez que je ne vois pas votre amitié ? Et ne changez point mes termes, reprit-il, je ne dis pas mon amitié, je parle de ma tendresse. « Quoi, dis-je, n'est-ce pas la même chose ?»« Non, Marianne, me répondit-il en me regardant d'une manière à m'en prouver la différence. « Non, chère fille, ce n'est pas la même chose, et je voudrais bien que l'une vous parût plus douce que l'autre. » Là-dessus, je ne pus m'empêcher de baisser les yeux, quoique j'y résistasse, mais mon embarras fut plus fort que moi. « Vous ne me dites mot ?» « Est-ce que vous m'entendez ?» me dit-il en me serrant la main. « C'est, lui dis-je, que je suis honteuse de ne savoir que répondre à tant de bonté. » Heureusement pour moi, la conversation finit là, car nous étions arrivés. Tout ce qu'il put faire, ce fut de me dire à l'oreille, « Allez, friponne, allez rendre votre cœur plus traitable et moins sourd. Je vous laisse le mien pour vous y aider. » Ce discours était assez net et il était difficile de parler plus français. Je fis semblant d'être distraite pour me dispenser d'y répondre, mais un baiser qu'il m'appuyait sur l'oreille en me parlant s'attirait mon attention malgré que j'en eusse. Il n'y avait pas moyen d'être sourde à cela. Aussi ne le fus-je pas. « Monsieur, ne vous ai-je pas fait mal ? » m'écriai-je d'un air naturel, en feignant de prendre le baiser qu'il m'avait donné pour le choc de sa tête avec la mienne. Dans le temps que je disais cela, je descendais de carrosse, et je crois qu'il fut la dupe de ma petite finesse, car il me répondit très naturellement que non. J'emportai le ballot de harde que j'allais serrer dans ma chambre, pendant que Monsieur de Climal était dans la boutique de Madame Dutour. Je redescendis sur le champ. « Marianne, me dit-il d'un ton froid, faites travailler à votre habit dès aujourd'hui. Je vous reverrai dans 3 ou 4 jours et je veux que vous l'ayez. » D'ailleurs, ajouta-t-il à l'attention de Madame Dutour, « je suis bien aise que mademoiselle soit proprement mise, parce que j'ai des vues pour elle qui pourront réussir. » Et tout cela du ton d'un homme vrai et respectable, car Monsieur de Climal, tête à tête avec moi, ne ressemblait point du tout au monsieur de Climal parlant aux autres. À la lettre, c'étaient deux hommes différents. Et quand je lui voyais son visage dévot, je ne pouvais pas comprendre comment ce visage-là ferait pour devenir profane et tel qu'il était avec moi. Mon Dieu, que les hommes ont de talent pour ne rien valoir! Marivaux, décidément, nous surprend toujours. Ce personnage de dévote, cette mademoiselle Habert, fait preuve d'une liberté d'esprit et de mœurs qui surprend le lecteur. Elle vivait avec sa sœur, celle-ci ne veut pas de Jacob, qu'à cela ne tienne. Mademoiselle Habert quitte sa sœur, déménage, et pas seule. Passant par-dessus les préjugés, les tabous, crac, mademoiselle Albert propose le mariage à Jacob. Ce faisant, elle répond au désir de Jacob qui cherche à s'élever, par des moyens honnêtes, dans la hiérarchie sociale. Jacob accepte donc le mariage. Nous avons affaire ici à deux personnages vifs et libres, capables de saisir les opportunités que le hasard leur offre, extraordinairement réactif parce qu'il ne s'encombre pas des préjugés, justement. Entre mademoiselle Habert et Jacob, il y a un pacte de bonne intelligence, de mutuels intérêts bien compris. C'est un mariage heureux parce que fondé sur la différence des âges et des conditions, non pas sur leur ressemblance et donc sur la complémentarité des époux.
J'ai vu bien des amours en ma vie, au reste bien des façons de dire et de témoigner qu'on aime, mais je n'ai rien vu d'égal à l'amour de ma femme. Les femmes du monde les plus vives, les plus tendres, vieilles ou jeunes, n'aiment point dans ce goût-là, je leur défierais même à l'imiter. Non pour ressembler à Mademoiselle Habert, que je ne devrais plus nommer ainsi. Il ne sert de rien d'avoir le cœur le plus sensible du monde. Joignez-y de l'emportement, cela n'avance de rien encore. Mettez enfin dans le cœur d'une femme tout ce qui vous plaira, vous ferez d'elle quelque chose de fort vif, de fort passionné. Mais vous n'en ferez point une Mademoiselle Habert. Tout l'amour dont elle sera capable ne vous donnera point encore une juste idée de celui de ma femme. Pour aimer comme elle, il faut avoir été 30 ans dévote, et pendant 30 ans avoir eu besoin de courage pour l'être. Il faut pendant 30 ans avoir résisté à la tentation de songer à l'amour, et 30 ans s'être fait un scrupule d'écouter, ou même de regarder les hommes qu'on ne haïssait pourtant pas. Oh, mariez-vous après 30 ans d'une vie de cette force-là. Trouvez-vous du soir au matin l'épouse d'un homme, c'est déjà beaucoup. J'ajoute aussi d'un homme que vous aimeriez d'inclination, ce qui est encore plus, et vous serez pour l'heure une autre Mademoiselle Habert. Et je vous réponds que qui vous épousera verra bien que j'ai raison quand je dis que son amour n'était fait comme celui de personne. C'est pour la dernière fois que je fais ces sortes de détails de ma façon de vivre avec Madame de la Vallée, je n'en dirai plus mot. On est suffisamment instruit de son caractère et de ses tendresses pour moi. Nous voilà mariés. Je sais tout ce que je lui dois. J'irai toujours au-devant de ce qui pourra lui faire plaisir. Je suis dans la fleur de mon âge. Elle est encore fraîche, malgré le sien. Et quand elle ne le serait pas, la reconnaissance dans un jeune homme qui a des sentiments peut suppléer à bien des choses. Elle a de grandes ressources. D'ailleurs, Madame de la Vallée, même avec une passion dont la singularité lui tiendrait lieu d'agrément si elle en manquait. Son cœur se livre à moi dans un goût dévot qui me réveille. Madame de la Vallée, toute tendre qu'elle est, n'est point jalouse. Je n'ai point de compte importun à lui rendre de mes actions, qui jusqu'ici, comme vous voyez, m'ont déjà été que trop infidèles et qui n'en font point espérer sitôt de plus régler. Suis-je absent ? Madame de la Vallée souhaite ardemment mon retour. Mais l'attente en paix. Me revoit-elle ? Point de question, la voilà charmée, pourvu que je l'aime et je l'aimerai. Qu'on s'imagine donc de ma part toutes les attentions possibles pour elle, qu'on suppose entre nous le ménage le plus doux et le plus tranquille. Tel sera le nôtre, et je ne ferai plus mention d'elle que dans les choses où par hasard elle se trouvera mêlée. Hélas, bientôt, ne serait-elle plus de rien dans tout ce qui me regarde. Le moment qui doit me l'enlever n'est pas loin, et je ne serai pas longtemps sans revenir à elle pour faire le récit de sa mort et celui de la douleur que j'en eus.
Pour la jeune Marianne, les choses sont plus compliquées que pour Jacob. Marivaux ne gratifie pas son personnage, M. de Climal, de la même liberté d'esprit que Mademoiselle Habert. Climal n'est pas capable de transgresser la norme et ne propose pas le mariage à Marianne. Il est trop attaché à son rôle de dévot, à sa réputation d'homme charitable. Il propose donc à la jeune fille de l'entretenir en cachette. Marianne n'a plus que le recours du couvent pour échapper à ses propositions. Mais elle a aussi rencontré le jeune, beau et riche Valville, image du prince charmant, image qui va d'ailleurs se briser. Valville promet le mariage, mais ne tient pas sa promesse. Marivaux conduit Marianne, de péripétie en péripétie, à une prise de conscience qui la bouleverse. Bien que femme, elle n'est pas condamnée à la frivolité. La raison et la réflexion ont leur droit. Marianne est invitée chez Madame d'Orsin. Elle s'y rend avec Madame de Miran, sa protectrice. Ces deux personnages, Mesdames d'Orsin et de Miran, ont eu pour modèle des amis de Marivaux, Madame de Lambert et Madame de Tencin, qui tenaient des salons célèbres. Et c'est ce milieu que Marianne découvre. Nous arrivâmes alors et nous entrâmes chez Madame d'Orsin. Il y avait 3 ou 4 personnes avec elle. « Ah, la voilà donc, enfin, vous me l'amenez, » dit-elle à Madame de Miran en me voyant. « Venez, mademoiselle, venez que je vous embrasse et allons nous mettre à table. On n'attendait que vous. » Nous dînâmes. Quelque novice et quelque ignorante que je fusse en cette occasion-ci, comme l'avait dit Madame de Miran, j'ai été née pour avoir du goût et je sentis bien, en effet, avec quels gens je dînais. Ce ne fut point à force de leur trouver de l'esprit que j'appris à les distinguer pourtant. Il est certain qu'ils en avaient plus que d'autres et que je leur entendais dire d'excellentes choses, mais ils les disaient avec si peu d'effort, ils y cherchaient si peu de façon, c'était un ton de conversation si aisé et si uni qu'il ne tenait qu'à moi de croire qu'ils disaient les choses les plus communes. Ce n'était point eux qui y mettaient de la finesse. C'était de la finesse qui s'y rencontrait. Il ne sentait pas qu'il parlait mieux qu'on ne parle ordinairement. C'était seulement de meilleurs esprits que d'autres, et qui par là tenait nécessairement de meilleurs discours qu'on a coutume d'en tenir ailleurs, sans qu'ils eussent besoin d'y tâcher, et je dirais volontiers sans qu'il y eût de leur faute. Car on accuse quelquefois les gens d'esprit de vouloir briller. Oh, il n'était pas question de cela ici. Et, comme je l'ai déjà dit, si je n'avais pas eu un peu de goût naturel, un peu de sentiment, j'aurais pu m'y méprendre, et je ne me serais aperçu de rien. Mais à la fin, ce ton de conversation si excellent, si exquis, quoique si simple, me frappa. Il ne disait rien que de juste, que de convenable, rien qui ne fût d'un commerce doux, facile et gai. J'avais compris le monde tout autrement que je ne le voyais là. Je me l'étais figuré, plein de petites règles frivoles et de petites finesses polies, plein de bagatelles graves et importantes, difficiles à apprendre, et qu'il fallait savoir sous peine d'être ridicule, toutes ridicules qu'elles sont elles-mêmes. Et point du tout. Il n'y avait rien ici qui ressemblât à ce que j'avais pensé. Rien qui dût embarrasser mon esprit, ni ma figure, rien qui me fît craindre de parler, rien au contraire, qui n'encouragea ma petite raison à oser se familiariser avec la leur. J'y sentis même une chose qui m'était fort commode, c'est que leur bon esprit suppléait aux tournures obscures et maladroites du mien. Ce que je ne disais qu'imparfaitement, ils achevaient de le penser et de l'exprimer pour moi, sans qu'ils y prissent garde, et puis ils m'en donnaient tout l'honneur. Il n'était point question de rang ni d'état chez Madame d'Orsin. Personne ne s'y souvenait du plus ou du moins d'importance qu'il avait. C'était des hommes qui parlaient à des hommes, entre qui seulement les meilleures raisons l'emportaient sur les plus faibles, rien que cela. Ou, si vous voulez que je vous dise un grand mot, c'était comme des intelligences d'une égale dignité, sinon d'une force égale, qui avaient tout unimement commerce ensemble, des intelligences entre lesquelles il ne s'agissait plus des titres que le hasard leur avait donnés ici-bas et qui ne croyaient pas que leurs fonctions fortuites dussent plus humilier les unes qu'enorgueillir les autres. Voilà comme on l'entendait chez Madame d'Orsin. Voilà ce qu'on devenait avec elle par l'impression qu'on recevait de cette façon de penser raisonnable et philosophe que je vous ai dit qu'elle avait et qui faisait que tout le monde était philosophe aussi. Pendant ce temps, Jacob apprécie les joies nouvelles de son confort bourgeois. Écoutons Jacob.
Je restais le lendemain toute la matinée chez moi. Je ne m'y ennuyais pas, je m'y délectais dans le plaisir de me trouver tout à coup un maître de maison. J'y savourais ma fortune, j'y goûtais mes aises, je me regardais dans mon appartement, j'y marchais, je m'y assis, j'y souriais à mes meubles. J'y rêvais à ma cuisinière qu'il ne tenait qu'à moi de faire venir et que je crois que j'appelais pour la voir. Enfin, j'y contemplais ma robe de chambre et mes pantoufles. Et je vous assure que ce ne furent pas là les deux articles qui me touchèrent le moins. De combien de petits bonheurs l'homme du monde est-il entouré, et qu'il ne sent point parce qu'il est né avec eux. Comment donc des pantoufles et une robe de chambre à Jacob? Car c'était en me regardant comme Jacob que j'étais si délicieusement étonné de me voir dans cet équipage. C'était de Jacob que Monsieur de la Vallée empruntait toute sa joie. Ce moment-là n'était si doux qu'à cause du petit paysan. Je vous dirai au reste que, tout enthousiasmé que j'étais de cette agréable métamorphose, elle ne me donna que du plaisir, et point de vanité. Je m'en estimais plus heureux, et voilà tout, je n'allais pas plus loin. Attendez pourtant, il faut compter les choses exactement. Il est vrai que je ne me sentis point plus glorieux, que je n'eus point cette vanité qui fait qu'un homme va se donner des airs. Mais j'en eus une autre, et la voici. Ce que je songeais en moi-même, qu'il ne fallait pas paraître aux autres, ni si joyeux, ni si surpris de mon bonheur, qu'il était bon qu'on ne remarquât pas combien j'y étais sensible, et que si je ne me contentais pas, on dirait « Ah, le pauvre petit garçon, qu'il est aise, il ne sait à qui le dire !» Et j'aurais été honteux qu'on fît cette réflexion-là. Je ne l'aurais pas même aimé dans ma femme. Je voulais bien qu'elle sût que j'étais charmé, et je lui l'ai répété 100 fois par jour, mais je voulais le lui dire moi-même, et non pas qu'elle y prît garde en son particulier. J'y faisais une grande différence, sans démêler que confusément pourquoi, et la vérité est qu'en pénétrant par elle-même toute ma joie, elle eut bien vu que c'était ce petit valet, ce petit paysan, ce petit misérable qui se trouvait si heureux d'avoir changé d'état. Et il m'aurait été déplaisant qu'elle m'eût envisagé sous ces faces-là. C'était assez qu'elle me crût heureux, sans songer à ma bassesse passée. Cette idée-là n'était bonne que chez moi, qui en faisait intérieurement la source de ma joie. Mais il n'était pas nécessaire que les autres entrassent si avant dans le secret de mes plaisirs, ni sussent de quoi je les composais. Sur les 3 heures d'après-midi, vêpres sonnèrent. Ma femme y alla pendant que je lisais je ne sais quel livre sérieux que je n'entendais pas trop, que je ne me souciais pas trop d'entendre, et auquel je ne m'amusais que pour imiter la contenance d'un honnête homme chez soi. Quand ma compagne fut partie, je quittai ma robe de chambre. Laissez-moi en parler pendant qu'elle me réjouit, cela ne durera pas. J'y serai bientôt accoutumé. Je m'habillai et je sortis.
Mademoiselle Habert, pardon, Madame de la Vallée, pourvoit à tout. Jacob, fraîchement nommé Monsieur de la Vallée, donc habillé de pied en cap, sa transformation le saisit lui-même. Mais pour que son bonheur soit complet, il lui manque, dit-il, un accessoire. Il désirerait porter l'épée au côté. Une épée ? Madame de la Vallée appelle immédiatement le fourbisseur et voilà Jacob satisfait. Cette épée, dans le roman de Marivaux, tient lieu, comme dans les contes, d'objets magiques. En effet, c'est un coup d'épée qui fera basculer, encore une fois, le destin de Jacob.
J'entendis un grand bruit à 20 pas derrière moi. Je me retournai et je vis un jeune homme d'une très belle figure et fort bien mis, à peu près de mon âge, c'est-à-dire de 21 à 22 ans, qui, l'épée à la main, se défendait du mieux qu'il pouvait contre 3 hommes qui avaient la lâcheté de l'attaquer ensemble. En pareil cas, le peuple crie, fait du tintamarre, mais ne secourt point. Il y avait autour des combattants un cercle de canailles qui s'augmentait à tout moment et qui les suivait, tantôt s'avançant, tantôt reculant, à mesure que ce brave jeune homme était poussé et reculait plus ou moins. Le danger où je le vis et l'indignité de leur action m'émut le cœur à un point que, sans hésiter et sans aucune réflexion, me sentant une épée au côté, je la tire, fais le tour de mon fiacre pour gagner le milieu de la rue et je vole comme un lion au secours du jeune homme en lui criant « Courage, monsieur, courage !» Et il était temps que j'arrivasse, car il y en avait un des 3 qui, pendant que le jeune homme bataillait contre les autres, allait tout à son aise lui plonger de côté son épée dans le corps. « Arrête ! Arrête ! À moi » criai-je, à celui-ci en allant à lui, ce qui l'obligea bien vite à me faire face. Le mouvement qu'il fit le remit du côté de ses camarades et me donna la liberté de me joindre au jeune homme qui en reprit de nouvelles forces, et qui, voyant avec quelle ardeur j'y allais, poussa à son tour ces misérables, sur qui j'allongeai à tout instant et à bras raccourcis des bottes qu'il ne paraît qu'en lâchant. Je dis à bras raccourcis, car c'est la manière de combattre d'un homme qui a du cœur et qui n'a jamais manié l'épée. Il n'y fait pas plus de façon et n'en est peut-être pas moins dangereux ennemi pour n'en savoir pas davantage. Quoi qu'il en soit, nos 3 hommes reculèrent malgré la supériorité du nombre qu'ils avaient encore. Mais aussi, n'étaient-ce pas des braves gens? Leur combat en fait foi. Ajoutez à cela que mon action anima le peuple en notre faveur. On ne vit pas plus tôt ces 3 hommes lâcher le pied, que l'un avec un grand bâton, l'autre avec un manche à balai, l'autre avec une arme de la même espèce vint les charger et acheva de les mettre en fuite. Oh, c'est ici où je me sentis un peu glorieux, un peu superbe, et où mon cœur s'enfla du courage que je venais de montrer et de la noble posture où je me trouvais. Tout distrait que je devais être par ce qui se passait encore, je ne laissais pas que d'avoir quelques moments de recueillement où je me considérais avec cette épée à la main et avec mon chapeau enfoncé en mauvais garçon. Car je devinais l'air que j'avais, et cela se sent. On se voit dans son amour-propre, pour ainsi dire. Et je vous avoue qu'en l'état où je me supposais, je m'estimais digne de quelques égards, que je me regardais moi-même moins familièrement et avec plus de distinction qu'à l'ordinaire. Je n'étais plus ce petit polisson surpris de son bonheur et qui trouvait tant de disproportion entre son aventure et lui. Ma foi, j'étais un homme de mérite, à qui la fortune commencer à rendre justice. Je n'attendais rien de cette aventure-ci et ne pensais pas qu'elle dût me rapporter autre chose que l'honneur d'avoir fait une belle action. Ce fut là pourtant l'origine de ma fortune et je ne pouvais guère commencer ma course avec plus de bonheur. Savez-vous qui était l'homme à qui, probablement, j'avais sauvé la vie? Rien qu'un des neveux de celui qui, pour lors, gouvernait la France, du premier ministre en un mot. Vous sentez bien que cela devient sérieux. Surtout, quand on a affaire à un des plus honnêtes hommes du monde, à un neveu qui aurait mérité d'être fils de roi. Je n'ai jamais vu d'âme si noble. « Avez-vous affaire ?» me dit le comte d'Orsan. C'était le nom du maître de l'équipage. « Je me porte fort bien et je ne veux pas m'en retourner si tôt chez moi. Il est encore de bonne heure. Allons à la comédie. J'y serai aussi à mon aise que dans ma chambre. » Jusque-là, je m'étais assez possédé, je ne m'étais pas tout à fait perdu de vue. Mais ceci fut plus fort que moi, et la proposition d'être mené aussi gaillardement à la comédie me tourna entièrement la tête. La hauteur de mon état m'éblouit, je me sentis étourdi d'une vapeur de joie, de gloire, de fortune, de mondanité. « Comme il vous plaira, lui répondis-je, et le carrosse partit. »
Nous achevons ici cette émission. Rassurez-vous, ces 2 formidables romans de Marivaux, La vie de Marianne et Le paysan parvenu, existent en plusieurs éditions de poche. Ils vous attendent en librairie. Bonne lecture. Marivaux, un philosophe et l'amour, deuxième émission, avec Patrick Hamel pour la lecture, Jean-Philippe Rameau pour la musique, œuvre pour clavecin, et Lucien Pénaud pour la prise de son et la réalisation. Marivaux, un philosophe et l'amour, un cycle de 4 émissions préparé et présenté par Lucrèce Lachenardière pour Canal Académie.